ciel éteint quand il descend. L'atmosphère change, il y a un transfert en tout ciel. Quand il descend,
quand il descend,
oui, tout s'arrête.
Bonjour bien-aimés, nous nous retrouvons ce matin pour notre manne. Et après avoir la semaine dernière parlé de la fête de l'Ascension, l'importance de cette fête et du fait que Jésus devait remonter auprès du Père car il ne pouvait envoyer le Saint-Esprit avant qu'il ne soit remonté auprès de son Père et qu'il ne soit glorifié. Donc, à la suite de cette pensée sur la fête de l'Ascension, je voudrais cette semaine m'entretenir avec vous de la Pentecôte. Et j'aimerais lire dans Actes chapitre 2 ces quatre premiers versets que nous connaissons bien, mais il est bon de les relire ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je voudrais donc cette semaine parler de la Pentecôte, alors que nous nous préparons à fêter cette fête lundi prochain avec nos églises sœurs de la région à 19h par Zoom. Et j'aimerais que nous réalisions que ce baptême du Saint-Esprit que Jésus a promis à ses disciples dans Actes 1, 8 a été la ressource nécessaire afin que les disciples de Jésus accomplissent sa mission qui était d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous le savons, l'Église est née dans Actes 2 et cette naissance n'est pas le fruit de quelque organisation humaine, de quelque stratégie humaine, mais la naissance de l'Église est le fruit de l'action du Saint-Esprit. Nous rappelons ce que Jésus a pu dire à Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jésus parlait bien sûr de la nouvelle naissance et parlait de la nouvelle naissance nécessaire à chaque individu. Mais je crois que en ce qui concerne le fait de bâtir l'Église, ce qui pourrait naître de la chair serait chair et ce qui pourrait naître de l'esprit serait esprit. En ce qui concerne cette mission extraordinaire de bâtir l'Église de Jésus-Christ, cela ne peut se faire que par la puissance et l'action du Saint-Esprit. Dans Actes 1, chapitre 1, verset 4, il est dit que, comme ils se trouvaient avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Nous souvenons qu'après que les anges et débloquer les disciples dans leur contemplation de Jésus qui était enlevé dans le ciel, eh bien, nous découvrons en effet que les disciples ont obéi et se sont soumis, ils sont allés à Jérusalem attendre ce que le Père avait promis et ce que Jésus avait annoncé. Il est assez évident, me semble-t-il, que c'est bien le dernier endroit où les disciples et les apôtres du Seigneur Jésus désiraient aller. Jérusalem est la ville où Jésus avait été crucifié. C'est aussi la ville de ceux qui étaient opposés à Jésus et son évangile. Et d'un point de vue humain, c'est certainement le dernier endroit qu'ils auraient choisi. Mais Jésus leur demande de retourner à Jérusalem et d'attendre. Nous devons prendre conscience qu'il y avait deux situations difficiles à gérer. D'abord le lieu d'attente, Jérusalem, et l'attente en elle-même. Nous connaissons tous l'intrépide et fougueux Pierre. Il me semble que l'attente n'est pas sa plus grande vertu. On peut penser que Pierre et d'autres d'ailleurs étaient impatients de répondre à la mission que Jésus leur avait confiée. Et dans leur impatience, ils auraient pu se lancer eux-mêmes dans cette mission sans attendre la ressource absolument essentielle pour accomplir cette mission. Il y a des choses que nous pouvons faire dans le monde du travail, dans la société dans laquelle nous sommes, sans avoir pleinement le secours de Dieu, et certainement, par la technologie, l'intelligence humaine, eh bien, de grandes choses peuvent s'accomplir. Mais en ce qui concerne la grande mission que Jésus a laissée à son Église, qui est de faire de toutes les nations des disciples et de bâtir son Église, la ressource essentielle, avant les ressources humaines qui sont nécessaires, avant les ressources financières qui sont aussi nécessaires, mais la ressource absolument primordiale est bien la puissance du Saint-Esprit. Je le répète, l'Église est née par la puissance du Saint-Esprit et l'Église ne perdurera et ne rayonnera que par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes tentés, dans ces temps de haute technologie, à peut-être passer de cette puissance, de la puissance du Saint-Esprit, pensant à tort que la puissance d'un processeur ou d'une puce informatique pourrait remplacer la puissance du Saint-Esprit. Si nous bénissons notre Dieu, surtout en ce moment, pour la puissance des processeurs informatiques, nous ne comptons pas sur la technologie de l'homme pour que des âmes par dizaines et centaines et voire par milliers se convertissent à Jésus-Christ. Nous ne voulons pas connaître une nouvelle Pentecôte dans le sens où nous rechercherions des sensations nouvelles qui seraient d'ailleurs bien souvent de l'ordre presque du mysticisme. Mais nous voulons connaître une Pentecôte rafraîchie et rafraîchissante. Oui, je le dis ce matin, nous désirons pour cette nouvelle année, cette Pentecôte que nous voulons fêter en cette année 2020, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous voulons connaître une Pentecôte rafraîchie et rafraîchissante. Nous voulons voir nous aussi, dans ces temps de la fin, chaque disciple être rempli du Saint-Esprit, car l'Écriture nous dit que des langues, semblables à des langues de feu, se sont posées sur chacun des 120 présents le jour de la Pentecôte et qui attendaient avec persévérance la promesse que Jésus avait faite. Ces langues de feu ne se sont pas posées simplement sur les apôtres de Jésus, mais sur chacun de ceux qui étaient présents. C'est une grande différence avec l'onction de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se posait sur quelques-uns, particulièrement sur les prophètes de Dieu, ou sur ceux que le Seigneur avait appelés pour une mission bien particulière. Nous pouvons citer par exemple Samson. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit venait de façon épisodique et saisissait un homme le temps qu'il accomplisse sa mission. Dans le Nouveau Testament, la promesse du prophète Joël s'accomplit. Et dans Acte 2, nous voyons que le Saint-Esprit est répandu sur chaque enfant de Dieu né de nouveau, non pas pour une occasion particulière, le temps d'une réunion, mais afin que cette puissance soit communiquée dans le temps, dans la durée, pour une mission qui s'inscrit aussi dans le temps et dans la durée. Nous en reparlerons mardi soir, mais ces 120 fidèles persévérant dans la prière étaient vraiment dans la salle d'attente de Dieu. Leur soumission est extraordinaire. Leur patience et leur investissement dans la prière le sont également. Parfois, parce que nous voulons que les choses avancent, parce que nous sommes impatients de voir Dieu agir, nous aurions tendance à précipiter le temps de Dieu. Mais nous devons apprendre que le meilleur des temps est toujours le temps de Dieu. Je répète, le meilleur des temps, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelle que soit notre impatience, le meilleur des temps est toujours et sera toujours le temps de Dieu. L'attente de la foi a toujours marqué les véritables croyants. La foi véritable nous permet de ne pas être agités alors que les choses sont difficiles et peut-être même dans certaines situations, les choses s'aggravent. La foi véritable attend patiemment l'intervention soudaine de Dieu. La foi véritable attend le tout à coup de Dieu. Pendant des siècles, les croyants de l'ancienne alliance ont attendu la venue du Messie, et au temps de Dieu, nous dit l'Écriture, le Messie, le Sauveur, est venu, selon les nombreuses promesses et prophéties de l'Ancien Testament. Maintenant, les croyants que nous sommes de la nouvelle naissance, nous sommes aussi dans l'attente du retour de Jésus. Je termine en disant que cette attente n'est pas une attente passive. Les disciples n'ont pas fait grand-chose dans la salle d'attente de Dieu durant 10 jours, mais ce qu'ils ont fait a été déterminant. Sur le plan humain, si vous regardez un peu les textes, la seule chose qu'ils ont fait a été de remplacer Judas par Matthias, c'est tout. Sinon, ils ont cherché le Seigneur dans la prière. Ils ont invoqué le Seigneur pour voir la promesse s'accomplir. La réunion de prière n'a pas duré quelques minutes ou quelques heures, mais 10 jours. Je ne sais pas si l'Église moderne des temps de la fin que nous sommes serait capable de prier durant 10 jours sans un grand prédicateur ou un super groupe de louanges invité pour l'occasion. Je ne sais si nous serions capables de tenir 10 jours juste dans la prière et attendre simplement ce que Dieu a promis. Nous vivons dans un monde où nous avons tellement de mal à nous tenir devant Dieu simplement. Nous sommes tellement habitués à zapper d'une activité à une autre. Quand les choses ne vont pas à notre rythme et qu'il nous faut attendre, nous zappons, nous passons à autre chose. Il faut que ça bouge. Mais dans le royaume de Dieu, notre excitation ne fera rien bouger. Dans ce temps de confinement, beaucoup ont témoigné que cela les avait ramenés à reconsidérer leur vie devant Dieu et à revenir à l'essentiel et à revoir leurs priorités. Et je prie que le déconfinement ne vienne pas tuer ces bonnes résolutions. Dans le royaume de Dieu, bien aimé, tout bouge quand nous tenons avec persévérance dans la prière. Ne lâchons pas le Seigneur jusqu'à ce qu'il accomplisse sa promesse. Que Dieu nous aide à nous tenir devant lui avec foi et persévérance, sans chercher à zapper parce que les promesses semblent tarder. Attendons avec persévérance dans la prière de la foi, et Dieu, mes bien-aimés, sera toujours au rendez-vous.
Le Saint-Esprit.
Seigneur Jésus, nous te prions de nous donner d'être capables de nous tenir devant toi simplement, persévérant dans la prière, patientant jusqu'à ce que tu accomplisses ta promesse pour nous. Nous prions, non pas pour une nouvelle Pentecôte, mais pour une Pentecôte rafraîchie et rafraîchissante. Je prie, Seigneur, que dans les jours qui viennent, chacun de tes enfants nés de nouveau soit baptisé du Saint-Esprit. Que des langues de feu descendent sur chacun de tes enfants. Je prie pour ceux qui peut-être ont besoin d'être renouvelés dans la vie de l'Esprit. Je prie que des flammes de feu raniment leur cœur et leur vie. Je prie pour notre Église à Annemasse, qu'elle soit une Église remplie du Saint-Esprit, et que malgré le fait que nous ne soyons pas ensemble dans le même lieu, dans chaque maison, dans chaque foyer, hommes, femmes et enfants, jeunes hommes, vieillards, tous soient remplis du Saint-Esprit, et que par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions accomplir la mission que tu nous as confiée, de faire de toutes les nations des disciples et de bâtir ton Église. Seigneur, visite nos cœurs, visite nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne journée, bien-aimés, sous l'onction du Saint-Esprit, et nous vous donnons rendez-vous demain soir, mardi à 20h, pour la suite de notre série sur Dans la salle d'attente de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bonne journée.